ces cadeaux qui piquaient notre curiosité quand ils étaient encore dans leurs emballages luisants commencent à perdre leur charme une fois déballés, n'est-ce pas? Mais il y avait peut-être un cadeau que nous avons espéré recevoir ce Noël. Un cadeau que nous avons cherché sous le sapin, mais sans trouver. Un cadeau qui aurait été très utile pour l'année 2019, contrairement à la plupart des cadeaux que nous avons reçus. Un cadeau que nous aimerions toujours avoir avant le jour de l'an. C'est le cadeau de la paix. Ça se peut que ce Noël, la paix te semble impossible à trouver. Peut-être tu as moins réussi tes examens de fin de session. Tu n'as pas des notes assez bonnes pour rentrer dans le programme universitaire de ton choix. Et tu vis cette stress. Ou peut-être 2018 était une année difficile sur les finances. Et tu vis le stress d'être endetté et tu ne sais pas comment t'en sortir pour 2019. Ou peut-être tu vis présentement un conflit avec un membre de ta famille. Le foyer est devenu un lieu de guerre et de blessures. Tu espères ne pas avoir à survivre une année pareille à celle que tu viens de subir. Ou peut-être tu vis avec une maladie chronique. Tu t'approches de l'année qui s'en vient avec découragement et frustration. Nous aimerions tous célébrer Noël, mais le jour de l'an aussi. Mais sans la paix dans nos cœurs, nous n'avons pas la joie pour vraiment fêter. Donc, comment trouver ce cadeau de la paix? Comment quitter 2018 en paix? Ce matin, nous allons rencontrer quelqu'un qui a trouvé la paix à Noël. Il s'appelle Siméon. Et l'histoire de Siméon nous montre trois choses par rapport à la paix. En premier, où nous pouvons trouver la paix. En deuxième, ce que nous devons nous attendre une fois que le cadeau de la paix est déballé. Et en troisième, ce que nous avons besoin à céder pour garder ce paix. Donc, si vous avez une Bible, tournons ensemble dans l'Évangile selon Luc, chapitre 2, et à partir de verset 21. Et si tu as la Bible blanche comme moi, c'est sur la page 661. Donc, Luc, chapitre 2 et verset 21. Découvrons ensemble ce cadeau de la paix. 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour la présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice une coupe de tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » L'histoire de Siméon nous montre que nous pouvons trouver la paix dans les promesses de Dieu. Nous trouvons Marie, Joseph et la petite enfant Jésus quelques semaines après sa naissance. Ils vont au temple à Jérusalem, suivant les coutumes pour une naissance dans leur culture juive. Et c'est au temple qu'ils rencontrent Siméon. Siméon cherchait la paix de la part de Dieu. Il anticipait le moment que Dieu interviendrait dans la vie de son peuple d'Israël. On lit au verset 25, « Cet homme attendait la consolation d'Israël. » Les belles images du premier Noël donnent l'impression que c'était une époque de paix, mais c'était plutôt une époque de conflit. Pendant de centaines d'années, le pays d'Israël a été déchiré par les guerres civiles, puis ensuite par la domination des empires mondiaux. À l'époque de l'essence de Jésus, le roi Hérode, qui n'était pas juif, dominait le peuple avec l'appui de l'Empire romain. Hérode, Rome et même l'établissement religieux ont soumis le peuple à des lourdes taxes. Toute insurrection contre Hérode et Rome a été réglée d'une façon virante et cruelle. Les Juifs n'étaient pas maîtres chez eux. Ils vivaient l'humiliation, l'injustice, la violence et la pauvreté. Mais malgré ces circonstances, Siméon attendait la paix de la part de Dieu. Pour notre société d'aujourd'hui, chercher ou trouver la paix en Dieu semble naïf. Nous cherchons la paix plutôt en prenant notre vie en main. Il faut étudier plus fort, travailler plus fort, s'entraîner mieux ou mieux contrôler son alimentation ou obtenir plus de ressources. Mais nous ne pouvons jamais contrôler la vie parce que la vie est instable. Nous n'obtenons pas toujours les résultats que nous voulons, même par nos meilleurs efforts. Et même si nous obtenons ce que nous cherchons, nous sommes rarement satisfaits ou nous rencontrons d'autres problèmes imprévus que nous n'avions pas entendus. Beaucoup de monde, ici surtout dans la région, veulent travailler pour le gouvernement fédéral parce qu'on entend que c'est un travail très stable, très sûr. Mais pour ceux d'entre nous qui travaillent dans un gouvernement, j'imagine que vous pouvez témoigner que vous vivez des déceptions, des frustrations au travail, des mises à pied et même parfois des chèques de paie qui n'arrivent pas à point. N'est-ce pas? De plus, nous ne pouvons pas garder indéfiniment la vie que nous avons prise en main. J'ai un voisin qui a 89 ans. Depuis que je le connais, ça fait 2 ans maintenant, je constate que sa santé se détériore. Il n'a plus l'équilibre nécessaire pour prendre des marches. Son corps est très fragile et la simple activité comme s'habiller le matin, pour lui, l'épuise. Il vit l'anxiété face à la mort que seulement quelqu'un dans sa situation peut vraiment comprendre. Il y a quelques semaines, il m'a dit que son espoir face à la mort et de continuer de vivre à travers la vie de ses enfants et ses petits-enfants. Mais je voyais dans ses yeux que son espoir ne lui donnait pas une vraie paix. Il essaie de prendre en main la réalité la plus difficile pour nous de recevoir notre mort. Oui, c'est honorable, c'est sage et c'est important de travailler, de chercher l'excellence dans notre travail, de chercher la réussite dans nos projets, de chercher les ressources qui sont disponibles, d'être proactifs. Mais nous n'attendons, mais nous ne pouvons pas attendre la paix en essayant de contrôler nos vies. Mais Siméon a reçu la paix de la part de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est confié dans les promesses de Dieu. « il y a des centaines d'années, Dieu avait déjà promis d'intervenir dans les souffrances de son peuple. Et il a fait ça à travers la prophétie de son prophète Ésaïe. C'est sur l'écran ici. Dieu a dit, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Une voix a dit, « Proclame un message. » Et j'ai répondu, « Que dois-je proclamer? Toute créature est comme l'herbe et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Voici l'espoir de Siméon. Et Dieu a également promis à Siméon une promesse personnelle. Il a promis qu'avant sa mort, il verrait le Messie qui accomplirait la promesse qu'il a donnée ici. Au verset 26 de Luc, on voit que le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Et en rencontrant le bébé Jésus, Siméon comprend qu'il rencontre le Messie. Et parce qu'il voit la fidélité de Dieu dans sa vie pour garder sa promesse envers lui, il sait que Dieu va aussi garder sa promesse envers le peuple entier, même s'il ne verrait jamais Jésus à l'œuvre. Donc, Siméon pouvait s'en aller en paix. Nous recevons la paix de Dieu en se confiant dans les promesses de Dieu. Si on connaît quelqu'un qui garde ses promesses, on peut dire deux choses par rapport à cette personne. En premier, la personne a le pouvoir pour réaliser ses intentions, et aussi, la personne est fidèle envers nous autres. Il y a quelques semaines, Dominique a souligné dans son discours avant Noël que Noël nous donne la preuve que Dieu garde ses promesses. Et à cause de Noël, nous aussi, comme Siméon, nous pouvons avoir l'assurance que Dieu va garder les autres promesses qu'il fait pour nous dans sa parole, la Bible. La semaine passée, j'ai visité mon ami âgé qui habite dans ma rue. Et il lisait la Bible pour trouver les promesses de Dieu par rapport à la vie éternelle. Il avait le calme dans ses yeux et je crois la paix dans son cœur. Et il m'a lu cette promesse qu'il a trouvée, que Jésus dit. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Au milieu des circonstances incertaines que tu vis présentement, laisse Noël te rappeler que Dieu est fidèle pour garder ses promesses. Nous recevons la paix de Dieu en nous confiant dans ses promesses. Mais quelqu'un pourrait dire aussi, « Mais comment est-ce que je peux me confier dans les promesses de quelqu'un que je ne vois pas? » Pourtant, quand nous commençons à déballer ce cadeau de la paix de Dieu, nous trouvons une personne. Siméon, ici, il exclame à Dieu au verset 30, « Je peux aller en paix car mes yeux ont vu ton salut. » Siméon a rencontré une personne. Il a pris un bébé dans ses bras. Et le salut que Dieu a promis est une personne. Les religions nous proposent souvent un processus pour atteindre le salut. Plusieurs proposent que nous pouvons atteindre le paradis en faisant de bonnes choses ou en suivant certains rites. D'autres proposent que nous pouvons atteindre la connaissance totale et la paix intérieure en suivant une éthique de vie juste et en pratiquant la méditation. Mais la foi chrétienne se distingue en nous invitant dans une relation personnelle avec une personne, Jésus-Christ, qui est notre salut. Nous recevons la paix de Dieu en entrant en relation avec Jésus-Christ. Dieu a promis d'intervenir dans les souffrances de son peuple d'une manière très personnelle. La prophétie en Ésaïe continue comme ceci. Monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta foi, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance, et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Dans cette prophétie, le Seigneur Tout-Puissant viendra au secours de son peuple. Et c'est fou de voir que sa récompense est de prendre soin de son peuple avec toute la tendresse d'un berger envers ses brebis. Le Seigneur Jésus-Christ prend plaisir en prenant soin de nous. Jésus-Christ prend plaisir à être avec nous. Jésus-Christ est entré en relation avec nous, une relation intime qui se caractérise par la tendresse de ce berger. En ce temps de l'année, nous faisons souvent la résolution de s'approcher plus du Seigneur durant l'année qui s'en vient. Nous faisons la résolution de lire nos Bibles plus, de prier plus, dans le but d'atteindre une vie spirituelle plus dynamique. Mais avant tout, il faut apprécier que Jésus s'est déjà approché vers nous, que Jésus s'est rentré dans nos vies parce qu'il prend plaisir en nous, qu'il est présent avec nous par son Esprit qui vit en nous, et que l'œuvre de son esprit est pareille au bon berger qui prend ses brebis dans ses bras, qui les porte contre sa poitrine. Nous recevons la paix à travers cette relation avec le Seigneur. Pour plusieurs personnes, les relations sont difficiles. Ils ne sont pas nécessairement le lieu pour trouver la paix. Nous avons tous connu une relation avec quelqu'un qui nous a porté beaucoup de stress, de conflits. N'est-ce pas? Mais certaines personnes ont été profondément blessées dans les relations. Peut-être toi, tu as subi de la part d'un autre le rejet, la manipulation, l'écrasement et l'abus. Et tu évites les relations intimes parce que tu ne veux pas revivre les mêmes blessures. Ou peut-être tu évites les relations parce que tu as honte. Tu as honte de toi-même, de ce qui tu es, de ce que tu as subi des autres, de ce que tu as déjà fait ou de ce que tu as de la misère à cesser à faire. Tu ne veux pas être trop proche des autres parce que tu ne veux pas être exposé pour qui tu es. Ça me fait penser à la chanson du Kevin Parent qui s'appelle « Seigneur ». Vous le connaissez, j'imagine. Dans cette chanson, nous rencontrons un homme qui parle au Seigneur. Il avoue avoir honte de lui-même, de vouloir être un meilleur homme, mais dans ses faiblesses d'avoir souvent tombé par les tentations du diable. Puis la chanson se termine par ces paroles qu'il dit au Seigneur. Le sexe, l'alcool, les bars et la drogue, c'est le genre d'illusion que je consomme. Si on est ce que l'on mange, Seigneur, tu sais bien que trop que je ne serai jamais un ange. Mais je vais changer de branche, filtrer mon passé puis sortir mes vidanges. J'aimerais prendre le temps de faire la paix avec quelques souffrances. Oui, j'aimerais prendre le temps de faire la paix avec quelques souffrances. Il veut trouver la paix, mais il pense qu'il doit la trouver par lui-même, en faisant le ménage de sa vie et en se soignant de ses souffrances intérieures. Dès qu'il trouve la paix, il peut revenir au Seigneur. Mais le Seigneur que nous rencontrons dans la personne de Jésus-Christ, qui veut nous rencontrer aujourd'hui, nous appelle à venir avec, à lui avec nos blessures, dans notre honte et avec notre péché, pour trouver le pardon, la guérison, le repos et la paix. Jésus a attiré à lui les gens qui étaient les plus blessés et qui avaient la plus d'honte. Ces gens, comme Marie de Magdala, comme Zachée, comme la femme samaritaine, comme les lépreux, comme les publicains, comme les prostituées, voulaient rentrer en relation intime avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'en lui, ils ont trouvé le pardon et l'amour inconditionnel de Dieu. Et ils ont reçu la paix qu'ils n'ont pas trouvée nulle part d'autre. Peu importe les raisons pour lesquelles tu évites des relations jusqu'à présent, n'évite pas celle-ci. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Donc, nous recevons le cadeau de la paix de Dieu en se confiant dans les promesses de Dieu. Et quand nous déballons ce cadeau, nous trouvons une relation avec Jésus-Christ qui est notre paix, qui nous donne la paix. Mais pour garder ce cadeau, nous avons besoin de céder à Jésus la gloire dans nos vies. Simeon a exprimé que Jésus était la lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. La nation d'Israël a reçu son identité de la part de Dieu. Dieu a choisi le peuple juif pour être son peuple parmi tous les autres peuples sur la terre. Et Dieu leur a expliqué son choix dans l'Ancien Testament, en Deutéronome, dans ces versets ici. Dieu leur a dit, « Tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont sous la surface de la terre. Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples, mais c'est parce que l'Éternel vous aime. En d'autres mots, Dieu n'a pas choisi Israël à cause de la gloire de ce peuple, mais Dieu l'a choisi à cause de son amour pour lui. Et donc, le peuple trouvait son identité dans l'amour de Dieu. Le récit biblique nous montre que quand ce peuple s'est confié dans l'amour de Dieu, Dieu s'est glorifié à travers leur vie. La gloire de Dieu brillait par ses œuvres dans la vie de cette nation. Et Israël était une lumière pour les autres peuples, pour éclairer la gloire de Dieu. Cependant, Israël a cessé de croire dans son identité en l'Éternel. Et il a cherché son identité dans les dieux des nations alentour. Et il a commencé d'adorer ces dieux. La passion pour la gloire de Dieu dans le cœur du peuple a été remplacée par les idoles. Et la nation a perdu sa gloire parce que Dieu a cessé de briller à travers elle. Comme Israël, nous sommes tentés de se construire une identité en dehors de Dieu. Moi, je suis tenté de me construire une identité dans l'approbation des gens, d'être quelqu'un toujours apprécié par les gens. Peut-être pour toi, tu es tenté de chercher ton identité dans ton intelligence, de toujours savoir plus ou de savoir mieux que les autres. Ou peut-être tu es tenté de chercher ton identité dans ton travail, d'être le superviseur hors pair qui est la clé du succès de ton département ou de ton entreprise. Ou peut-être tu es tenté de chercher ton identité en étant la maman extraordinaire, la supermom. Ou peut-être tu es tenté de chercher ton identité en étant un esprit libre qui ne se conforme pas au conseil des autres. Et comme Israël, nous glorifions ce en quoi nous cherchons notre identité. Glorifier quelque chose et de lui accorder une valeur suprême dans nos vies. Mais parce que Dieu tient la valeur suprême dans la vie, nous péchons quand nous accordons la valeur suprême à autre chose que lui. Pasteur Tim Keller dit ceci au sujet du sens du mot péché. Selon la Bible, le péché n'est pas seulement de faire de mauvaises choses, mais c'est de fondamentalement transformer de bonnes choses en choses ultimes. Le péché est de construire ta vie et ton identité sur n'importe quoi, même une bonne chose, à la place de Dieu. Nous n'arriverons jamais à trouver la paix en se construisant nos identités en dehors de Dieu. Si je construis mon identité sur l'approbation des autres, je vais vivre le stress continuel de vous plaire. Et tu vas vivre le stress continuel d'apporter le succès de ton département ou de ton entreprise sur tes épaules. Tu vas vivre le stress continuel de bien gérer tes enfants et ta famille. Tu vas vivre le stress de toujours avoir besoin de te démarquer par ton intelligence ou de prouver que tu es une personne très originale et très créative. La gloire de nos idoles dépend de nos efforts pour les faire briller. Et de plus, quand nous rencontrons l'échec, nous allons être démolis parce que nous sommes construits une identité qui est en train de fondre. Mais si nous avons reçu une identité permanente qui est plus profonde que nos rôles dans la vie ou nos personnalités, l'échec va faire mal, mais nous pourrons survivre et garder la paix. Quand nos enfants pètent une crise à l'épicerie et les regards des gens autour mettent en question notre compétence en tant que parents, ça m'arrive souvent, ou quand tu es critiqué par les autres, ou quand ton projet de travail ne fonctionne pas et les gens mettent en question ton leadership en tant que superviseur, ou quand dans tes examens, tu n'as pas des bonnes notes, ou quand ton talent et créativité sont dépassés par ceux des autres. Oui, ça fait mal, mais nous pouvons garder la paix si Jésus est la valeur suprême de nos vies. Mais nous avons de la misère à lui donner la gloire. Simeon, ici, il n'avait pas des paroles joyeuses pour Marie, pour consoler Marie et Joseph. Il dit à Marie, au verset 34, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Israël était une nation qui croyait en l'Éternel, mais quand la gloire de l'Éternel a été révélée en Jésus-Christ, les cœurs de beaucoup se sont révélés hostiles à lui. Jésus-Christ nous vient en tant que Sauveur et Seigneur. Pour ceux entre nous qui se croient assez bons, nos cœurs s'opposent à ce besoin d'un Sauveur pour nos péchés. Pour d'autres, nous sommes soulagés d'avoir quelqu'un qui peut nous accompagner dans nos blessures. Mais nos cœurs s'opposent à son appel de suivre sa manière de vivre en tant que ses disciples. Mais pensons à sa gloire. Si Sidney Crosby se joint à ton équipe récréative de hockey Cosum, la seule attitude raisonnable est de lui céder la direction de l'équipe. Pourquoi? À cause de sa gloire. À cause de son talent inné, son expérience dans la LNH et des médailles d'or et des coupes Stanley qu'il a remportées. Avoir Sidney Crosby sur notre équipe de hockey Cosum est un tout petit peu comme avoir Jésus-Christ dans nos vies. La seule attitude raisonnable et juste est de lui céder la direction de nos vies. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur de la vie. La Bible présente la direction de Jésus-Christ pour nos vies, la direction pour notre sexualité, notre argent, nos relations avec les autres, nos biens matériaux et beaucoup d'autres choses. Et souvent, la Bible corrige notre manière de penser et notre manière de faire. Si la Bible n'était que les paroles des hommes, nous pourrions l'accepter ou bien la refuser comme bon nous semble. Mais parce que la Bible est la parole de Dieu, écrite par l'Esprit de Jésus-Christ, il est raisonnable et juste pour nous de suivre sa direction pour nos vies. Et quand nous cédons à Jésus la gloire, Jésus se glorifie à travers nos vies. Jésus fait briller sa lumière à travers nos vies par son désir de se faire connaître dans la vie des autres et d'être à l'œuvre dans leur vie aussi. Pour garder ce cadeau de la paix, nous avons besoin de céder à Jésus la gloire. Nous avons besoin de céder la gloire. Mais pour nous donner la paix, Jésus a dû céder sa paix. Simeon a averti Marie, « Toi-même, une épée transpercera l'homme. » Elle souffrirait de voir son fils vivre sans paix. Jésus a cédé sa paix en acceptant d'être né dans une famille pauvre parmi un peuple qui était opprimé par les puissants mondiales. Jésus a cédé sa paix en acceptant une vie d'itinérance, d'être sous des attaques constantes du diable et aussi d'avoir le rejet des membres de sa famille, de son pays et de sa communauté religieuse. Jésus a cédé sa paix en acceptant d'être trahi par un ami, d'être renoncé par un autre et d'être abandonné par les autres. Jésus a cédé sa paix en acceptant de subir l'injustice d'un faux procès légal, la violence sadique et une mort parmi les plus douloureuses. Et dans le moment le plus difficile, Jésus a cédé sa vie en étant privé de sa relation avec son Père, relation qui lui a toujours porté la consolation quand il ne trouvait pas la paix nulle part d'autre. De la croix, il a crié, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La promesse de Dieu qui nous donne la paix était pour Jésus un prononcement de souffrance. Isaïe, qui a prédit la paix de Dieu, a aussi prédit ceci par rapport à lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Jésus-Christ a cédé sa paix pour nous donner la paix avec Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a cédé sa paix? Parce que sa vie était le seul sacrifice acceptable pour couvrir nos péchés, pour permettre Dieu de nous pardonner et pour permettre Dieu de nous donner l'identité de ses enfants dans lequel nous jouissons une relation intime avec lui, dans lequel nous jouissons ses promesses. Pourquoi est-ce qu'il a cédé sa paix? Parce qu'il nous aime. Voici le Seigneur à qui nous avons besoin de céder la gloire de nos vies. Ce Noël, il se peut que tu cherches le cadeau de la paix sans pour autant l'avoir trouvé. Tu aimerais avoir la paix dans ta vie pour débuter 2019. Jésus-Christ t'offre le cadeau de la paix avec Dieu. C'est à toi de le recevoir par la foi. Accepteras-tu de recevoir Jésus comme le sauveur de tes péchés et comme le Seigneur de ta vie? Il se peut aussi que beaucoup d'entre nous, Jésus-Christ est le cadeau que nous avons négligé pendant que nous cherchions la paix dans beaucoup de choses qui ont moins de valeur que lui. Faisons de 2019 l'année pour découvrir de nouveau sa gloire et en lui de trouver notre paix. J'invite les musiciens de s'approcher.